Notre invitée ce matin qui est Christiane Lambert, la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et du COPACOGECA, premier syndicat agricole européen. C'est avec vous, Anthony Latier.
Bonjour Christiane Lambert.
Bonjour.
Alors, une grande sécheresse frappe l'Europe, elle s'aggrave même cette sécheresse, et notamment en France. Depuis hier, quasiment tout le pays est en alerte sécheresse, 93 départements en restriction d'eau. A-t-on déjà, Christiane Lambert, une idée globale des conséquences sur les récoltes agricoles et quelles récoltes en particulier sont touchées ?
Beaucoup de pays européens sont touchés, c'est plus grave encore, et j'ai une pensée pour eux, pour nos collègues italiens, espagnols ou portugais. En France, vous l'avez dit, 93 départements. Pour la récolte des céréales, la paille, le blé et l'orge qui est faite ou en passe d'être terminée, il y a des régions qui ont perdu 30% de rendement. C'est le cas de la Bourgogne, de certaines zones d'Occitanie, de Charente. Ceux qui souffrent le plus aujourd'hui, ce sont les prairies. Vous le voyez en passant en train ou en voiture, elles sont toutes marron. Les prairies paillassons, comme on dit, elles auront même du mal à repartir si la pluie arrive. C'est aussi le maïs. Le maïs, lorsqu'on n'a pas accès à l'irrigation, est en train de souffrir énormément, les feuilles sèches. C'est aussi la vigne. Les raisins prennent des coups de soleil sur la face qui est exposée au soleil plein sud. Les feuilles brûlent, peuvent même s'enflammer. Et c'est aussi les fruits, puisque lorsque les fruits prennent un coup de soleil sur la face soleil, eh bien, il peut y avoir des indurations ou des difficultés de conservation. Donc, canicule, sécheresse, manque d'eau. Plus le gel au printemps, c'est vraiment une année climatique particulièrement compliquée pour les agriculteurs.
Et une année noire pour l'agriculture. Donc les fruits, le blé, le maïs, dites-vous, est-ce que la France et puis peut-être l'Europe d'une façon générale vont manquer de nourriture dans les prochains mois ?
Manquer de nourriture, non, nous ne manquons pas de céréales puisque nous avons des rendements qui sont au rendez-vous en moyenne sur l'ensemble de l'Europe. Il nous manque bien sûr le blé russe et ukrainien, mais ça c'est pour les pays acheteurs comme les pays du Nord-Afrique ou du pourtour méditerranéen, du Moyen-Orient et même d'Asie. Moins de fruits, donc des fruits plus chers. Moins de légumes aussi et plus de difficultés parce que les cycles végétatifs vont beaucoup plus vite quand la chaleur est aussi forte. Et puis ils brûlent, donc c'est ce qui explique en partie la hausse des fruits telle que l'a révélé l'association Famille Rurale. Et pour les éleveurs, indéniablement, des hausses de coûts de production. Chez nous, nous avons du maïs pour donner à nos porcs. Nous avons un élevage de porcs, nous avons 50 hectares de maïs. D'habitude, nous avons 95 taux de rendement. Là, il n'y a pas eu d'épis formés en raison de la sécheresse et de la canicule. Pas d'épis, ça veut dire pas de grains, donc pas de valeur pour les animaux. Ça fait une perte sèche de 100 000 euros pour l'exploitation chez nous. Mmh. Donc, vous voyez qu'il y a des impacts économiques extrêmement forts. Et s'il n'y a pas des augmentations de prix de nos produits à la fin, c'est tout le débat de la loi alimentation, eh bien, nous ne tiendrons pas l'équilibre économique de nos fermes.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Tout cela va accélérer l'inflation. On arrive à estimer de combien à peu près ?
Écoutez, il y a plusieurs effets. On cumule l'effet du coût de l'énergie qui a redémarré très fort avec la reprise, notamment en Chine, à l'automne dernier. L'effet Ukraine qui a fait augmenter le prix des engrais, du carburant, de l'énergie, du gaz. Tous les Français le voient. Et puis maintenant, l'effet de la sécheresse qui nous impacte énormément. Donc, par exemple, pour l'alimentation animale, c'est plus 31% de coût de l'alimentation pour nourrir nos animaux. Et donc, il faut passer des hausses. Alors, on parle d'inflation, mais vous savez, depuis 10 ans, les prix de l'alimentation ont baissé en France, de 1% par an environ. Les Français ne nous ont pas remerciés, certains s'en sont même pas aperçus. Là, il y a ces trois conditions extrêmes qui obligent à dire qu'il faut augmenter les prix et payer l'alimentation à son vrai prix si on veut garder les exploitations en France, si on veut garder les industries en France et les emplois qui vont avec. Et la France est le pays qui a 5,8% d'inflation, le taux le moins élevé d'Europe. Tous les pays qui nous touchent, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Belgique, l'Angleterre, ont des inflations à près de 10%. Donc nous sommes le pays où l'inflation est la moins élevée, mais nous sommes le pays où il s'en parle le plus et où les Français sont entretenus dans cette idée que manger moins cher, c'est possible. Eh bien, manger moins cher aujourd'hui, c'est pas possible, sauf à faire disparaître les agriculteurs, sauf à importer demain l'alimentation venue d'ailleurs, alors qu'il sera moins cher, c'est sûr, qu'importera du carbone ou de la pollution faite ailleurs. Mais ça ne sera pas satisfaisant non plus pour le climat.
Donc il y a un changement de mentalité à opérer, c'est ce que vous dites.
Oui, mais c'est toute la pédagogie. Combien ça coûte de produire en France ? C'est comme quand on achète des vêtements ou des voitures ou des chaussures. Moi, je suis dans le Maine-et-Loire. Le Maine-et-Loire, c'est un département où il y avait énormément d'entreprises textiles et chaussures. Il y avait plus de 12 000 emplois il y a 20 ans. Aujourd'hui, il en reste 1 200. Nous avons tous des chaussures aux pieds. Elles sont chinoises, taïwanaises, bangladaises, etc. Mais il n'y a plus ces emplois-là. Sauf que quand il y a le Covid, comme on l'a vu, et quand il y a une crise et que toute l'économie se met à l'arrêt, la France a manqué de masques, de gants, de gel, de paracétamol, et on s'est remis à parler de souveraineté, de relocalisation des activités agricoles, bien sûr, mais pas seulement, médicales, santé. Les ministres vont inaugurer des entreprises qui se remettent à produire des composants électroniques, des masques. C'est pareil pour l'alimentation. On a perdu beaucoup, beaucoup de production de fruits en France. Nous importons aujourd'hui 60% de nos fruits, 45% de nos légumes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fruits moins chers partout dans le monde, la main-d'œuvre est moins chère, les normes de production sont inférieures, donc les produits sont moins chers. Mais ce n'est pas le même contenu produit. Donc moi j'appelle les consommateurs au patriotisme alimentaire, quand ils font leurs courses, prioriser les emplois, prioriser les achats français, c'est prioriser aussi les emplois en France, nos emplois, et ce qui fait le dynamisme des territoires. Le premier secteur employeur de main-d'œuvre en France, c'est l'industrie agroalimentaire. Parce qu'elle est dans tous les territoires.
Christiane Lambert, tout cela pose la question de la sauvegarde de l'eau. Et il y a une technique controversée du stockage dans des bassins d'eau qui tombe, l'eau qui tombe en hiver, que l'on sert ensuite, dont on se sert pour irriguer en été. Technique controversée notamment par les écologistes parce que l'eau à l'air libre s'évapore, parce qu'elle ne permet pas forcément de repenser le modèle agricole. C'est pourtant toujours la piste que vous privilégiez ?
Oui, mais c'est un raccourci des écologistes qui est réducteur. Il n'y a qu'en France où il y a ce débat-là et ce conflit-là. En Europe, le stockage d'eau a augmenté de 13%, en France de 1%. En France de 1%. Et donc, nous avons, nous, un retard en termes d'irrigation parce que nous avons de l'idéologie. On ne peut plus raisonner comme avant. Vous voyez, tout le monde dit qu'il faut arrêter, il faut faire de la sobriété pour l'énergie, il faut changer par rapport aux nouvelles règles. L'eau est rare, ok, mais l'hiver, quand il y a des pluies diluviennes, nous pourrions tout à fait stocker cette eau quand elle est en abondance et l'utiliser l'été quand elle est rare. C'est ça ce que nous prenons. Et je crois que les écologistes qui, certains d'entre eux, pas tous, hein, il faut le dire, ont des positions radicales contre l'irrigation, font porter un lourd préjudice sur l'agriculture française, la capacité justement à produire des produits en France. Vous savez, on importe de la paille d'Espagne. C'est incroyable. Les Espagnols irriguent beaucoup plus que nous, ont du blé, de la paille, du maïs, et on importe ces produits-là chez nous. Donc on importe de l'eau en quelque sorte. Donc je pense qu'il faut raisonner global et sortir de ces raccourcis que les écologistes évoquent à propos d'irrigation. L'eau, elle est stockée. L'eau qui irrigue les cultures, c'est de l'eau utile pour l'alimentation. Une tomate, c'est 90% d'eau. Pour faire pousser du blé, du maïs, même de l'herbe pour les vaches, il faut de l'eau. Et donc, je pense qu'il faut sortir cette idée de cette évaporation qui, en plus, n'est pas une réalité.
Christiane Lambert, réponse assez courte, s'il vous plaît. Quelles autres techniques peut-on imaginer pour les prochaines années ?
Alors déjà, aujourd'hui, les agriculteurs ont beaucoup changé les cultures qu'ils pratiquent. Nous avons plus de tournesol au printemps et moins de maïs parce que c'est une plante moins consommatrice en engrais et moins consommatrice en eau. Les agriculteurs ont changé aussi leur date de semis pour les cultures pour essayer de coller aux nouvelles réalités climatiques. Mais cette année, ça a été compliqué. La canicule du mois de mars, aucun climatologue ne nous l'avait prévu. Toute la difficulté, c'est d'avoir aussi à nos dispositions des données météorologiques les plus fiables possibles, des capteurs pour essayer d'identifier la réalité de ce qui se passe au jour le jour et des outils d'aide à la décision. Des variétés plus résistantes aussi. Quand il fait chaud et humide, les plantes ont plus d'attaques de champignons. Donc c'est un métier du vivant. Nous travaillons à ciel ouvert, nous travaillons avec le climat. Ça appelle beaucoup d'humilité face à des gens qui ont beaucoup de certitudes et qui parlent à notre place.
Merci beaucoup, Christiane Lambert.